Top Music.
Top Music entre deux. Le podcast de la SIG Strasbourg.
Entre deux, le podcast de la SIG Strasbourg, épisode 2, et notre invité aujourd'hui, on va le présenter, il s'agit de Boris Diaw. J'ai beaucoup bossé, j'ai pris ma feuille Wikipédia, donc Boris Diaw, né...
Tu t'es trompé là, c'est Boris Diaw. Hein.
Tu me laisses parler peut-être. Boris Diaw, né le 6 avril 1982.
12 mars 94, à Nantes.
Pourquoi t'es pas Boris Diaw?
Non, Boris Diaw c'est celui qui gère le Valois, tu sais, l'équipe qui nous a battu la semaine dernière.
Bon, ben, entre deux épisodes 2, c'est parti! Et vous l'avez compris, après ce magnifique sketch totalement improvisé que nous envie déjà Jimmy Fallon aux États-Unis, notre invité c'est évidemment Boris Diaw. Salut Boris!
Salut.
Au-delà de la petite pitrerie, est-ce que des gens t'ont déjà confondu justement avec Boris Diaw, avec ce prénom et puis un nom de famille assez proche?
Ouais, c'est proche, mais non, j'ai pas eu affaire à ça, donc pour l'instant ça va, je m'en sors bien.
Tu t'en sors bon. Ceci dit, il y a pire comparaison.
Ouais, c'est
il y a
vrai,
pire comparaison.
Vrai.
Durant ce podcast, on va évidemment parler de la SIG Strasbourg, on va parler beaucoup de toi, Boris Diaw, effectivement né le 12 mars 1994
c'est ça,
à Nantes, papa ivoirien, maman réunionnaise, j'imagine un beau mélange de culture à la maison, un beau mélange musical, un beau mélange dans l'assiette, très certainement.
Ouais, c'est ça, bah, plus particulièrement dans l'assiette, ouais, c'est vrai que... Il y a pas mal de plats différents qui sont faits à la maison, donc c'est vrai que quand je retourne à la maison, je suis bien servi. Ouais.
Et maman, papa, ils savent, Boris rentre, on sait ce qu'on doit lui faire, il y a le plat préféré.
Ouais, c'est ça. Et ma mère, elle sait qu'en général, c'est un plat qui s'appelle rougail saucisse.
Ouais.
Avec un peu de grain sur le côté, donc quand je rentre à la maison, je sais que c'est prêt. Et souvent, mon père, il me fait un plat à base d'arachide. De la sauce arachide avec des légumes, du riz. Et, en général, ça dépend de la viande, du poulet, un peu du bœuf. Hein. Ça dépend.
Et il y a un souvenir d'enfance qui revient immédiatement avec les effluves.
C'est ça.
L'enfance de Boris Diaw à Nantes, c'était quoi? C'est une enfance qui est allée rapidement vers le basket?
Ouais, on va dire. J'ai commencé à 7-8 ans. En fait, le hasard a fait les bonnes choses. Mon voisin, c'était l'un des présidents du club de l'Armine de Nantes, enfin des dirigeants du club amateur. Et à l'époque, il était éducateur sportif et il m'avait proposé de venir faire un entraînement parce qu'il me voyait jouer au basket dans la cour avec mes grands frères. Et après, j'ai tout de suite accroché. Donc voilà, c'est là que ça a commencé.
Le basket t'a happé donc très très jeune.
Ouais, c'est ça.
Très très jeune. Tes grands frères, ils jouent toujours au basket?
Non, ils ont arrêté, ils ont joué avant. Ils étaient dans les petits clubs à côté de Nantes. Ils étaient pas mal, ils devaient rentrer en centre de formation à Cholet à l'époque, quand c'était vraiment bien, mais ils ont préféré continuer leurs études.
Et quel regard ils portent sur le petit frère qui a réussi cette carrière que peut-être eux auraient aimé faire?
Ils sont fiers. Après, c'est vrai que ils vivent un peu par procuration, on va dire. Et ça leur fait vraiment plaisir de me voir maintenant faire ce que je fais.
Ce que tu fais, c'est aussi une carrière très particulière par rapport à la carrière habituelle des joueurs de basket.
Ouais,
tu as dit avoir débuté à l'Armine de Nantes, tu es allé ensuite au Centre Fédéral.
Ouais.
Jusque-là, c'est une carrière à peu près normale, à peu près habituelle plutôt. Ensuite, il y a Antibes. Il y a Poitiers, tu arrives en 2012, au moment où Evan Fournier s'en va.
Ouais, voilà, c'est ça. Evan part, il draft en NBA. Ouais. À Denver. Et du coup, j'ai décidé de signer à Poitiers parce que j'avais dans la tête, en sortant du centre fédéral, que je pouvais apporter quelque chose à une équipe professionnelle directement en Pro A. À l'époque, c'était la Pro A. Donc, j'avais choisi Poitiers. J'avais pas mal de clubs, dont Strasbourg qui était intéressé. Donc, j'ai fait le choix d'aller à Poitiers.
Et puis Strasbourg, justement, il me semble qu'il y a eu des essais vers 2014 en même temps que même j'ai été.
Non, c'était en 2012
déjà.
À la sortie de l'INSEP. En fait, ils organisent des visites dans les clubs qui sont intéressés et qui postulent en fait pour chaque joueur. Et donc j'étais venu avec Mam Jaité, on avait fait un entraînement avec à l'époque il y avait Axel Touban.
Exact.
Un bon pote à moi, donc Vincent nous avait fait un entraînement, c'était très bien passé. Mais voilà, après Strasbourg avait une grosse équipe et ils m'avaient proposé de jouer plus en espoir qu'en professionnel et vraiment de m'entraîner avec les pros. Et j'étais déjà dans l'optique d'intégrer un groupe professionnel complètement et pouvoir avoir l'opportunité de jouer. Donc j'ai décidé de passer.
Et après Poitiers, là, tu vas chez un très grand d'Europe pendant deux saisons, le Partizan Belgrade. Ouais, tu retrouves, entre autres, Geoffrey Lauvergne et Léo Westermann. Cette expérience en Yougoslavie, c'est... Après les États-Unis, c'est la deuxième mecque du basket d'une certaine
c'est
façon.
C'est ça, on va dire que c'est un peu le berceau du basket. La Serbie, c'est une religion le basket là-bas, donc c'est vrai que j'ai appris pas mal de choses sur et en dehors du terrain, et ça m'a fait grandir un peu plus vite que la plupart des jeunes joueurs, ouais, c'est vrai.
Et en plus, tu parles désormais couramment serbe, m'a-t-on dit.
Ouais, c'est ça, je parle couramment serbe. Bah, avec Trumo, notre assistant, j'ai la possibilité de parler avec lui en serbe. J'ai appris là-bas en quelques mois, donc je m'en sers.
Une facilité pour les langues, semble-t-il, d'ailleurs, chez toi.
C'est ça.
Parce qu'il y a aussi le grec, on va parler un petit peu de la Grèce plus tard, mais tu parles serbe, grec, anglais, français.
Ouais, grec encore, ça va, je le comprends. Après, le parler, c'est un peu plus difficile, mais bon, j'ai quelques bases. Mais ouais, anglais, ouais, je le parle couramment, français aussi.
Et français, heureusement d'ailleurs. Ce serait con pour un français d'être plus doué dans les autres langues, hein, n'est-ce pas? Et d'autres langues encore que tu parles?
On va dire que l'espagnol, je le parle correctement. Je l'écris bien, je le parle correctement. Après, j'ai la langue de chez ma mère, moi, j'ai le créole, donc je sais pas si ça compte, mais ouais. Il y a pas mal de langues.
C'est vrai que le créole est un creuset de plusieurs langues différentes.
Ça,
hein, tout à fait. Alors, l'ex-Yougoslavie, la Serbie, le Partizan Belgrade, raconte-nous un peu le quotidien dans un aussi grand club, dans un club aussi mythique.
Ouais, quotidien difficile, on va dire. On appelle ça les tranchées, un peu, dans le jargon du basket, parce qu'on travaille beaucoup. C'est des entraînements par un jour, c'est du 6 heures. Ça veut dire qu'en gros, le matin, on bosse physiquement et individuellement, et le soir, on bosse collectivement. C'est très dur mentalement, on va dire. Et en fait, le coach, il fait en sorte de te pousser dans tes retranchements pour pouvoir tirer le meilleur de toi-même. Donc, c'est une culture différente qui n'est pas forcément adaptable avec tout le monde. Donc, on avait un effectif très jeune et très talentueux, donc ça marche avec nous. Après, le coach, il est venu à Limoges et ça n'a pas forcément marché, donc ça dépend des cultures et des endroits d'où il est. Mais ouais, la culture de l'Est, c'est une culture très dure, on va dire.
Et au niveau des supporters, ça se passe comment? On sait que en Serbie, en Croatie, en Slovénie, ils sont plus que passionnés.
Ouais, c'est pas des supporters, c'est des fans, ils sont fanatiques. Donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir jouer devant une ferveur comme ça. Mais quand on joue à l'extérieur, c'est une ambiance assez hostile. Donc ça aussi, ça te fait progresser dans le mental. Comment gérer la pression, comment gérer si les provocations, si ça. Et faire abstraction de ce qu'il y a à l'extérieur pour pouvoir te concentrer sur ce qu'il y a sur le terrain.
Oui, du coup, en Jeep Elite, quand il y a quelques sifflets à l'extérieur lorsque tu dois prendre un lancer franc décisif, finalement, ça te passe un petit peu au-dessus. À ce niveau-là, t'es plutôt tranquille.
Plus trop attention. Ouais.
Après ces épisodes à Poitiers puis aux Partisans, c'est déjà la Ligue de développement américaine ou c'est d'abord la Grèce? Non, d'abord les États-Unis.
Non, après le Partisan, je reviens en Jeep.
Tu reviens, je reviens en Jeep
chez les Sharks pendant un an. Donc c'était ma dernière année pour pouvoir éventuellement être drafté. Donc j'avais décidé de revenir en France pour pouvoir avoir un rôle convenable et pouvoir me montrer. Donc je suis revenu, ça s'est passé moyennement, on va dire. Mais au final, j'ai eu le temps de jeu souhaité, on va dire. Donc j'aurais pu apporter plus, mais j'ai fait avec ce qu'on m'avait donné. Et voilà, j'en retire vraiment du positif.
Et ensuite, donc, les États-Unis. Alors, ce n'est pas la NBA, mais la Ligue de développement.
Ouais,
les Long Island Nets, qui appartiennent très certainement aux Brooklyn Nets, vu le nom. Sachant que ces équipes de développement appartiennent parfois à une seule formation NBA, parfois à plusieurs franchises en même temps.
Ouais, c'est ça.
Et comment se retrouve-t-on dans cette ligue de développement qui est très méconnue en Europe?
Bah, on va dire que c'est méconnu pour les gens en général qui suivent le basket par-ci, par-là. Mais les gens qui connaissent vraiment les rouages et dans notre sport, ils connaissent vraiment la ligue de développement parce que la plupart des joueurs qui sont borderline NBA, on va dire, qui sont entre pouvoir jouer en NBA et pas avoir la possibilité de jouer par rapport à l'effectif ou quelques problèmes, et bah passe par la ligue de développement pour pouvoir avoir des responsabilités. C'est une ligue assez particulière parce que c'est une culture différente, c'est toutes les règles, c'est les règles NBA. Donc c'est un peu on va appeler ça l'antichambre. C'est l'antichambre, donc il y a 50 matchs en 4 mois.
Pas mal.
Ouais, c'est pas mal. Il y a pas mal de
back-to-back. C'est un rythme quasi NBA.
Ouais, c'est un rythme NBA. Et moi, à l'époque, quand j'étais parti à Brooklyn, c'était la première année de la franchise. Et on était dans les infrastructures NBA parce qu'ils n'avaient pas encore construit le stade.
Ça, c'est cool quand même.
Ouais,
ça, c'est cool. Donc, le fameux Barclays Center.
C'est ça. Bah, j'habitais juste au-dessus du Barclays Center. On jouait entre guillemets en levée de rideau de l'équipe NBA. Et puis, on utilisait les structures d'entraînement des Brooklyn Nets, donc c'était vraiment pas mal.
Ça te permettait de côtoyer aussi les joueurs de la formation NBA.
On a côtoyé pas mal de gars et Brooklyn avait des liens très très étroits avec les Atlanta Hawks parce que le coach Kenny Atkinson était assistant, je crois, à l'époque. Il y a pas mal de joueurs des Hawks qui venaient faire les allers-retours avec nous.
Quels joueurs t'ont marqué durant cette période?
Déjà, il y avait Torian Prince qui est venu jouer avec nous pendant quelques mois, qui était vraiment pas mal, et qui maintenant a signé à Brooklyn, donc ça ne m'a pas forcément étonné. Il y avait Max Scott aussi qui était venu jouer avec nous, qui joue aux Sixers. Après, il y a pas mal de joueurs qui étaient bons individuellement, mais il y a pas mal de joueurs qui ne comprennent pas forcément qu'on ne va pas aller en NBA en marquant 40 points. Parce qu'il y a pas mal de joueurs qui peuvent mettre 40 points dans cette ligue.
Et c'est un peu le souci d'ailleurs de cette ligue de développement. On a l'impression que c'est un peu, passe-moi l'expression, chacun pour sa gueule.
Ouais, c'est ça. C'est ça, mais il faut en fait comprendre qu'il faut se mettre dans une mentalité où une équipe a besoin de quelqu'un, un spécialiste. Les scoreurs, ils les ont déjà. Les scoreurs, ils sont déjà NBA. Donc il faut se mettre dans une optique différente, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut apporter quelque chose d'autre, la défense, du rebond, de la passe. Ou du jeu sans ballon, dans un compartiment, il faut être un spécialiste et exceller là-dedans. Donc c'est pour ça qu'Axel...
J'allais le dire, Axel avec sa défense.
C'est ça, et puis il était dans une équipe qui gagnait, donc forcément il avait... ça aide. Après, il y avait Briante Weber, que j'ai croisé pas mal, avec qui j'ai des bons liens avec lui, parce que c'était l'un des seuls joueurs avec moi qui était proche du triple-double à chaque match. Il y a vraiment beaucoup de talent en D-League et si on regarde vraiment, il y a vraiment pas mal de talent. Ouais.
Et à l'époque, l'un des patrons des Nets, c'était Jay-Z, tu l'as croisé? T'as croisé Beyoncé?
Non,
t'as
non,
checké avec eux?
Non, même pas. J'ai croisé pas mal d'exécutifs de l'organisation, mais non, j'ai pas croisé. Je suis allé jusqu'au General Manager.
Mais bon, ce qui est pas mal du tout quand même.
On le voyait souvent parce qu'il nous scoutait aussi. Mais non, j'ai pas vu président, l'actionnaire russe ou Jay-Z ou Beyoncé.
Et cette période, tu en tires quel bilan? Il y a un peu de frustration de te dire j'étais au port de la NBA et puis il m'a manqué ce petit truc.
Ouais, non, que du positif. Parce qu'il faut pas oublier que c'est pas mal dans notre sport, il y a pas mal de politique. Donc je l'ai compris très vite. Et je me suis dit que j'étais vraiment à deux doigts d'avoir un call-up, comme on dit. Mais j'ai vraiment beaucoup progressé individuellement, parce que 50 matchs, c'est beaucoup.
Oui.
Il n'y a rien qui peut remplacer le stress de match. On peut s'entraîner autant qu'on veut, il faut jouer. Donc 50 matchs en 5 mois, c'est tout bénef. Après, j'aurais voulu peut-être avoir l'opportunité d'avoir un contrat de 10 jours ou quoi, mais vraiment que du positif.
Que du positif. Ouais. Et puis alors ensuite, on sent que tu as fait un peu les temples du basket, puisque là, tu te retrouves en Grèce, à Panionios,
ouais,
c'est bien ça. Alors là, la Grèce, ce sont parmi les supporters les plus fous au monde.
Ouais, c'est ça.
Je pense que tu dois avoir mille et une anecdotes.
Panionios, on va dire que c'est un ancien gros club. C'était un gros club historique. Avec pas mal de supporters aussi. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai fait autant de matchs à huis clos.
D'accord.
Parce que les supporters, on va dire qu'ils étaient un peu hors de contrôle. Et c'est vrai que j'ai fait pas mal de matchs à huis clos. Et vraiment, c'est une culture différente. Mais je pense que ça se ressent maintenant dans ma manière de jouer. Parce que la Grèce, c'est aussi un pays basket. Avec le Pana, l'Olympiakos, l'AEK, le PAOK, la RIS, même Panionios avant.
Tout à fait, oui. Tout à fait. Dans les années 90, Panionios, c'était un très, très, très grand club.
Je crois qu'il y a Laurent Sierra qui est passé là-bas.
Oui, alors Laurent Sierra avait une anecdote. On va voir si tu me la confirmes. C'est que, de temps en temps, comme tout le monde, il allait au restaurant. Et puis là, en plein milieu du repas, un des exécutifs du club venait avec une grosse enveloppe. Tiens, c'est ton dernier mois de salaire. Tiens, vas-y, prends-le.
C'est vrai qu'en Grèce, il y a déjà des soucis de paiement. Et les paiements, ils ne sont pas forcément en franc, comme en France ou en Allemagne, ou dans les clubs qui sont assez structurés, dans les ligues qui sont assez structurées, des fois c'est cash dans une enveloppe. Donc c'est vrai qu'au début ça surprend, mais après quand on a l'habitude, on fait pas forcément attention.
Et puis on a le soleil, on a la mer, on a la nourriture crétoise, on est heureux.
Franchement, il fait bon vivre. C'est vrai que c'est plus facile d'aller entre guillemets au boulot, même si c'est pas forcément perçu comme ça quand il fait beau. Et il fait bon vivre, les gens aiment beaucoup le café là-bas, donc les gens sont très relax. C'est un peu comme à Marseille, un peu une ambiance un peu relax. Ouais.
Retour en France l'année dernière pour quelques mois à Nancy, puis tu arrives à la SIG Strasbourg été. Alors, tu es arrivé à la SIG Strasbourg dans une position particulière par rapport aux autres nouveaux joueurs, puisque toi, tu arrives en tant que pigiste médical de Jérémy Nzoli. On est dans un état d'esprit particulier quand on arrive comme ça.
Non, pas forcément, parce que j'ai pas mal de kilomètres maintenant dans les pattes je prends ça comme une opportunité. C'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant dès l'été de prendre un contrat que de 6 mois, mais pour moi c'est une suite logique par rapport à ce que je voulais moi personnellement. Et par rapport aux endroits que j'ai fait, si on fait le chemin, si on prend un pas de recul, c'est une suite logique. Parce que j'ai fait un peu de basket en Serbie, en Grèce, aux États-Unis. Donc passer par Strasbourg, c'est un peu une suite logique avec le coach. Mais la durée, c'est qu'une anecdote. Si j'ai la possibilité de prolonger, je le ferai. Mais vraiment pouvoir jouer 2 fois par semaine.
Ça ne te prend pas plus la tête que ça,
clair. Non, je suis vraiment concentré sur ce que j'ai à faire. Et puis, après, voilà.
Alors, il paraît que tu t'es déjà imposé dans le vestiaire suite à une enquête interne. Alors, mauvaise chose pour toi et tes coéquipiers, vous avez élu votre capitaine joueur le plus râleur déjà. Est-ce que c'est vrai?
C'est vrai qu'Ali...
Il n'est pas là, tu peux le dire.
Il a un passé de râleur, ouais. Mais c'est vrai que Jerry, il est pas mal non plus.
Jerry Grant.
Jerry, il est pas mal non plus... En mode râleur, c'est vrai qu'Ali ça se voit un peu plus, mais Diarré c'est un peu plus malin, mais c'est vrai qu'il est pas mal râleur. Ouais.
Et toi, tu es le joueur le plus drôle du vestiaire.
C'est sûr.
C'est ce qui ressort de cette enquête. Mes sources.
Après moi je suis un mec, je suis bon vivant, donc forcément j'aime profiter vraiment. Aux États-Unis ils appellent ça le glue guy, donc. Ouais, je suis un mec, j'aime bien rigoler. Ouais.
Bon, alors nous, on va remonter le temps, si tu le veux. On va partir quelques années en arrière. Voilà, je te présente la DeLorean rouge et blanche de la SIG Strasbourg. Vas-y, installe-toi.
C'est bon,
voilà, tu es bien attaché.
Ouais.
Bon, on va pouvoir mettre le commutateur temporel en marche, et je te propose de remonter au mois d'août 1990. Nous sommes le 25 août 1990. Olivier Weissler, que tu connais, est revenu à la SIG en tant que joueur. Patrick Lazare pioche, lui, un intérieur que Schwarzenegger, pourtant très costaud, pourrait craindre. Et puis en 1990, à la radio, on écoute ça. Comme quoi, les souvenirs n'ont pas que du bon. Cet intérieur qu'a recruté Patrick Laser, il s'appelle Hakim Shahid. As-tu entendu parler de lui ?
Non.
Non. La légende veut que ce garçon aura été certainement le joueur le plus cher pour les frais de bouche de la SIG. Nous sommes donc en août 90, c'est le traditionnel barbecue de début de saison. Les dirigeants ont convié tous les joueurs. Voilà. Il y a de la musique, pas forcément celle qu'on vient d'écouter. Mmh. Il y a du Coca-Cola, peut-être un petit peu de bière à boire avec consommation. On est en Alsace tout de même. Et puis, l'un des membres du directoire met une belle côte de bœuf à cuire sur barbecue. Ah, tu sens un petit peu avec les petites herbes, ouais. Là. Hein, ça donne ouais. Faim. La côte de bœuf, la viande qui commence légèrement à croûter à l'extérieur. Elle est bien tendre, bien rosée à l'intérieur. Eh bien, cette immense côte de bœuf, on la découpe pour que chacun puisse se servir. Et là, c'est le drame, c'est la boulette. Hakim Shahid est le premier joueur à qui l'on tend la côte de bœuf. Pas un seul de ses coéquipiers, pas un seul de ses dirigeants ne pourra en manger. Hakim a gloutonné toute la côte de bœuf. Il faut savoir également que Hakim Shahid, c'était une omelette de 6 œufs à chaque petit déjeuner et un poulet entier à chaque causerie d'avant-match. Nous repartons tout de suite en 2019. Boris, ça te fait quoi d'avoir entendu l'histoire du joueur le plus glouton de l'histoire de la SIG ? Est-ce que tu imagines juste une omelette de 6 œufs à chaque petit déj ?
Ouais, c'est une culture différente, hein, les Américains.
Là, oui, mais lui, je pense qu'il est même très différent des Américains.
C'est ça. Bah, ça arrive. Il y a pas mal de spécimens dans le monde du sport, et ça en est un. Donc.
Effectivement, un gros spécimen. La diététique, justement, te concernant, tu fais attention à ce que tu manges.
Ouais,
au-delà, quand tu rentres chez maman et papa avec ces bons petits plats.
Non, je fais attention depuis quelques temps maintenant à ce que je mange. J'essaie de manger équilibré, de faire attention, parce que mon corps, c'est quand même mon outil de travail, donc je fais attention. Ouais.
Et tu te fais aider par des nutritionnistes, ou bien tu sais à peu près ce que tu peux manger ?
Non, je sais ce que je peux manger. J'ai eu affaire à des nutritionnistes, mais je ne suis pas forcément fan.
T'as envie de te faire plaisir quand même ?
Ouais, mais on va dire qu'on comprend pas forcément la différence entre faire attention et, on va dire, se priver de certaines choses. On peut se faire plaisir tout en faisant attention à ce qu'on mange.
Un mot sur cette saison à la SIG Strasbourg, avec l'effectif que vous avez cette année, beaucoup de jeunes joueurs. Est-ce que tu te sens presque comme un mentor pour certains ?
Mentor, oui et non, parce que j'ai quand même pas mal d'expérience maintenant avec les différentes ligues, mais c'est vrai que j'essaie d'aider les joueurs quand je peux le faire. Voilà, parce que Vincent il a des demandes particulières qu'on peut pas forcément comprendre directement, donc j'essaie d'aider les gars quand je peux le faire. Ouais.
Vincent Collet, c'est quel type de coach par rapport à ceux que tu as pu connaître ?
Proche de mes coachs que j'ai eu à l'étranger, puisqu'il est très, très à cheval sur la discipline et sur les détails. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui me surprend, puisque je savais très bien comment il était. Tout joueur qui regarde le basket français a forcément regardé les équipes de Vincent. Donc, je savais déjà à quoi m'attendre. Mais c'est un coach, il est reconnu dans toute l'Europe, donc on sait pourquoi.
Le quotidien de Boris Dalot, ce sont des entraînements, des repas où tu fais attention,
c'est ça.
Et à ce que j'ai entendu, des études que tu poursuis. C'est une volonté de ta part d'être dans le coup d'après, penser à l'après-carrière déjà.
Ouais, ça, c'est un peu la conclusion de mes voyages, de différents points de vue que j'ai pu avoir, parler avec pas mal de personnes. Et voilà, j'ai décidé de reprendre les études.
Dans quel domaine ?
Dans le management sportif. Dans le management sportif, c'est une formation sur 2 ans. Et voilà, je pense que ça peut m'aider aussi dans ma carrière maintenant, avoir un autre point de vue, avoir un peu de recul. Donc voilà.
Et pour la suite, donc, ce serait pour travailler éventuellement dans l'encadrement d'un club, agent de joueur, enfin plusieurs horizons qui s'ouvrent.
On verra. Pour l'instant, j'aime bien tout ce qui est directeur sportif, général manager, mais bon, ça je verrai après ma carrière de joueur. Mais voilà, j'aime bien tout ce qui tape dans le management sportif. Après, j'ai eu mon petit frère aussi qui est plus dans le foot. Il a fait ses études il a passé ce concours d'agent de foot et il est jeune, il a 22 ans. Donc, on va dire que c'est un peu de famille.
Ouais. Oui, un intérêt pour le sport. Pourquoi pas vous associer plus tard,
plus
jamais.
Tard, on verra. Voilà. On sait jamais.
Le foot, c'est aussi un sport que tu aimes beaucoup. Il n'y a pas que le basket. Tu es un fan de sport.
Ouais, je regarde un peu tout. Je regarde du foot, du tennis.
L'OM.
C'est ça, Marseille.
Et il paraît que l'OM de l'Est, qui est à côté à la Méno, de Racine, tu y es déjà allé quelques fois aussi.
Ouais, je suis allé 3-4 fois. Je suis allé voir les matchs de Ligue Europa contre Francfort. Après, je suis allé voir les matchs contre Monaco, Metz, le derby. Voilà, je crois que je voulais aller voir Nantes parce que j'ai pas mal de potes, mais on est en déplacement. Et puis, j'essaierai d'aller voir le match contre Lyon, je crois, dans pas longtemps. Donc, voilà.
Voilà, un gros intérêt. Puis à la maison, dès que tu peux, les chaînes sportives.
Direct, Sport Canal. je fais de la pub, mais ouais, je regarde direct les chaînes de foot. Je regarde même de la Formule 1. Enfin, je regarde de tout, quoi.
Ouais, tu as vraiment un intérêt à fond pour le sport.
Ouais, touche à tout, quoi.
La question qui tue,
elle nous a été envoyée par notre chronomètreur fou, Jean-Noël. Es-tu prêt ?
Prêt.
Boris Dallot. La banane, est-ce bien raisonnable ?
Bah oui.
On va expliquer pourquoi. Explique-nous.
Bah, la banane, il faut avoir le sourire.
Ah non, c'est pas celle-là que je pensais. Il y a la banane du sourire, il y a la banane Elvis Presley, il y a la banane qu'on peut manger pour se donner des forces. Il y a la banane à la ceinture, monsieur Dallot. Eh oui.
Ouais, c'est mon porte-monnaie. C'est mon fourre-tout, on va dire. Et je l'emmène partout. Donc, indispensable.
Et il paraît que ça fait sourire pas mal de monde, d'ailleurs.
Bah ouais, après, moi, je fais partie des gens où ce que les gens pensent, ça rentre, ça sort, mais ouais, j'ai mon style à moi, et voilà, quoi.
Alors, ce style, tu le partages cette saison avec Ludo Beyhurst. Ouais. On a pu te voir avec des baskets. Au moins, on te reconnaît aux chaussures sur le parquet avec ces baskets roses mises à disposition par votre sponsor Adidas.
C'est ça.
C'est le style.
Voilà, c'est le style. Il faut se démarquer un peu. Et puis, comme on dit, j'en parlais avec mes coéquipiers américains, look good, play good. Donc, si t'es bien habillé, tu joues bien. Bon, après, c'était une petite boutade, mais ouais, j'aime bien avoir un flow, on va dire, sur le terrain. Ouais.
Bon, bah, c'est une bonne chose, effectivement. Ouais. Et on a la réponse à cette question essentielle. Le pourquoi de la banane de Boris Dallot. Dans le tome 2 du livre « Plus près des étoiles » de Dominique Wendling et Jean-Claude Frey, celui qui sera à ma place dans 20 ans, au lieu de parler du gloutou, il parlera et de la banane de Boris. Voilà, ça créera un nouveau beau souvenir. Exactement. On va parler un peu musique aussi. Ta chanson préférée, c'est quoi ?
Alors, j'ai pas forcément une chanson préférée. En fait, c'est par période.
Ouais, on va dire et actuellement
En ce moment, j'écoute beaucoup de rap londonien suite à une série. Donc, j'écoute beaucoup de Geeks. C'est un rappeur qui a été pas découvert, mais qui a été pris sous l'aile de Drake.
On revient au basket avec Drake, hein.
Ouais, c'est ça.
Les Raptors de Toronto, ça, on reste dans le giron du basket.
En fait, on va dire que le basket et la musique, c'est un peu coordonné. Enfin, c'est un lien, on va dire. Parce qu'un rappeur, il a forcément envie d'être basketteur. Un basketteur, toute sa vie, il voudrait être rappeur.
Et il y en a qui ont essayé, c'était pas bon.
Ça marche pas. Je citerai pas de nom, mais...
Non, on en reparlera un peu plus tard, ceci dit, attention.
Ouais, mais j'ai pas de chansons vraiment préférées. J'ai des styles que j'apprécie vraiment beaucoup. Mais ouais, chanson préférée, il y a trop de choix, j'écoute trop de musique pour pouvoir faire un choix.
La musique, tu l'écoutes aussi à l'échauffement, à l'entraînement, ça te permet
tout
justement...
Tout le temps. Dès que je rentre chez moi, j'ai la musique. Avant l'entraînement, j'ai mon enceinte, donc dans les vestiaires, je mets la musique et j'ai tout le temps la musique. Ouais.
Et est-ce qu'il y a un morceau de musique qui te galvanise un petit peu avant les matchs, un truc que tu aimes bien écouter avant le match pour te donner un peu de force?
Franchement, ça dépend des périodes, comme je disais. Avant, j'aimais bien les sons qui mettaient la patate.
Genre une musique Gladiator, un truc comme ça.
Non, pas forcément. Un truc du rap français, mais un peu plus cru, qui te met un peu la rage.
Ouais.
Mais des fois, des fois, je peux écouter du zouk avant un match. Je peux écouter un peu de funk, un peu de soul, un peu de trucs des années 90. Bon, ça dépend.
Ouais, vraiment très éclectique.
Ouais, éclectique.
Très éclectique. La suite de la saison, c'est retrouver les premières places. Quel bilan tires-tu du début de la saison de la SIG Strasbourg?
Positif, forcément. Je me sors d'une victoire hier. Mais voilà, au début, ça va être un peu up and down, on va dire. Il y aura des oscillations parce que, on a une prépa un peu tronquée par les blessures. Le coach n'était pas forcément là.
Après, beaucoup de nouveaux joueurs aussi.
Beaucoup de nouveaux joueurs, des nouveaux principes qui ne sont pas forcément assimilés tout de suite. Donc, un peu de patience, mais aussi, il faut qu'on commence aussi à pouvoir montrer nos progrès et gagner des matchs. Donc, du positif dans le début de saison, parce que je sais qu'on va monter en puissance.
On remarque qu'il y a beaucoup de talent dans cette équipe déjà un côté très copain.
Ouais, il y a du talent, forcément, quand c'est jeune, ça rime aussi avec talent, donc forcément c'est...
Et un peu trop de fougue par moment.
Un peu de fougue, ouais, mais on va dire que c'était un peu les inconvénients connus par rapport à la construction de l'équipe, donc c'est pour ça que Vincent aussi est là pour nous cadrer, mais c'est vrai qu'on est bonne de potes et c'est tout bonus, ouais.
On sent vraiment des garçons très sains, notamment les Américains qui sont avec, qui sont tous sauf des stars. On a parlé, tu l'évoquais, Jirey,
oui.
Râleur semble-t-il. on peut parler de Gabe, on peut parler de Travis, Thomas Scrubs, canadien, peut-être un petit peu plus timide.
Ouais, un peu plus timide, mais ils se font aussi dans le collectif, ils se font bien. Je pense qu'il a vu qu'on était des bons gars. Gabe, qui est là forcément aussi, c'est un mec qui est très influent dans l'équipe. Travis aussi, donc voilà, Jerry c'est un peu le papa un peu pour les Américains, parce que c'est le plus âgé, même s'il a que 30 ans, donc voilà.
Et pour l'entente du groupe, vous faites des petits moments ensemble, soirées chez les uns les autres, concours de jeux vidéo, voir un match ensemble.
C'est ça, on essaie de profiter ensemble le plus qu'on peut, mais même s'il y a pas mal de joueurs qui ont des familles, par exemple, après la défaite contre Paris, on est parti manger ensemble, essayer de profiter ensemble, d'oublier ça, de tourner la page. Donc on essaie de se rencontrer, d'être ensemble le plus possible et d'améliorer cette cohésion d'équipe.
Si tu devais décrire le jeu de la SIG Strasbourg cette saison par rapport aux joueurs qui sont présents, tu dirais que dirais-tu de vos forces que tu ressens déjà, même si elles n'ont pas été toutes montrées encore, et de vos faiblesses?
Après, ça, c'est plus le coach qui vous en dira plus, mais une force, on va dire l'attaque. On a vraiment une attaque de feu, on a des joueurs qui peuvent prendre feu à tout moment, ça peut partir de partout. Donc,
on l'a vu au Portel.
Le Portel. Mais ça a étonné pas mal de gens, mais moi j'étais pas forcément étonné parce que l'équipe elle est construite comme ça. Et on peut avoir aussi des inconvénients, des avantages comme samedi dernier contre Paris, là où on était un peu amorphe et un peu attentiste, surtout au niveau de l'énergie et de la défense. Donc voilà.
Vincent Collet disait que c'était peut-être à cause de la victoire trop facile au Portel que certains joueurs se sont dit « Oh, bon, finalement, c'est facile d'aller à JP Elite. »
Ouais, c'est le problème des équipes avec pas mal de talent. Vous savez, les joueurs qui ont du talent, les choses viennent un peu naturellement et des fois, il faut que ça vienne un peu au forceps, surtout en France, avec ce championnat particulier. Donc, ça fait partie d'expérience. J'espère qu'on aura retenu la leçon.
Merci Boris Dallot. Que peut-on te souhaiter pour la suite?
Bah, la santé, le moins de blessures possible et de continuer avec la SIG, évidemment.
Le podcast touche à sa fin. Je te propose rapidement une séance de shoot. Question rapide, réponse rapide.
Ok, pas de problème.
Ton basketteur préféré?
Peignardouais.
Ah, enfin, les Peignardouais. Ça remonte, ça, pour les plus anciens.
Ouais, j'ai un mec old school, moi.
Ah, mais c'est cool, c'est cool. Ton sportif préféré?
Didier Drogba.
Ton acteur ou ton actrice préférée? Voir les deux.
Ouais, acteur préféré, je dirais Denzel Washington.
Ta plus grande qualité?
Souriant.
Ton plus grand défaut?
J'en ai pas mal de défauts. Je suis un peu solitaire. Ouais.
Un peu solitaire. Ton meilleur pote dans le basket?
Mam, j'ai été.
Ton moment le plus gênant durant ta carrière, pendant un match?
Waouh.
Ça veut dire qu'il n'y en a pas eu ou qu'il y en a eu trop?
Si, il y en a eu, mais franchement, gênant, je sais pas. Après, c'était une défaite assez gênante avec Nancy l'année dernière. On gagnait de 22 points, on a perdu la belle contre Saint-Chamond, alors qu'on était dans les favoris, donc j'ai pas forcément aimé cette défaite.
Oui. Il y en a ici qui pourraient te parler d'une autre défaite contre
présent,
Dijon.
J'étais présent.
Ah non, en plus. Michael ou LeBron? Le plus grand.
Le plus grand? Le plus grand, Michael.
Ou LeBron ou un autre. Hein.
Non, LeBron, pour moi, LeBron, c'est le meilleur joueur all-around de l'histoire. Après Michael Jordan, pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire.
Tout court.
Tout court.
Boris Dalot ou Boris Diaw? On y revient?
Boris Dalot.
Et la dernière, on parlait de basketteur hip-hop. Donc là, c'est par rapport à leur carrière.
Ok.
De rappeur, rappeur. Pas de basketteur.
Okay.
The Shaq ou Tony P? Elle est méchante.
Franchement, j'ai
ni l'un ni l'autre, c'est ça?
Franchement, on va dire qu'en anglais, ça passe mieux. Après, Shaq, ce qu'il raconte, j'ai écouté un peu. C'est un peu beauf. Chaque forcément. Après, si Tony rappait en français, en anglais, pardon, ça passerait mieux. Mais ouais, chaque. Désolé, Tony, mais bon, là, chaque obligé. Ouais.
Chaque obligé.
Ouais, c'est ça.
Merci beaucoup, Boris, merci d'être venu répondre aux questions d'entre deux. On se retrouvera très prochainement, bien sûr, pour l'épisode 3. Un grand merci à Top Music et Laokai, partenaire de la SIG Strasbourg, pour ce podcast. Big up à notre chronomètreur fou, c'est dur à dire en fin d'émission, Jean-Noël. Un coucou à Constance et à Franklin de la SIG. Et SIG Army, je te salue.